savourer nos différences.
www.radio-g.fr. j'avais oublié de nous mettre à l'antenne.
Ah, on abuse. On n'était pas à l'antenne. Non. Ah mince.
Bon, on refera Grande Famille à tout à l'heure. Là, on est en train de parler de Blue Corner de Caribou Marley et Jiro Taniguchi aux éditions Piquet Graphique. On a commencé à parler en présentant les deux auteurs. Désolé, c'est la case de Seb, j'ai oublié d'appuyer sur un bouton. C'est bête, hein. C'est la fatigue. On parlait des deux auteurs et de pourquoi Jiro Taniguchi était connu en France, notamment parce qu'il fait des dessins très réalistes et qu'il a un style sur les tranches de vie qui peut beaucoup parler aux adultes plus qu'aux enfants. Ça va ?
Ouais, c'est ça, exactement. Ce qu'on disait, pas facile de rebondir, hein, mais on va essayer de faire mieux, mais ça va le faire. Non, mais voilà, un auteur prolifique qui a écrit beaucoup de choses, malheureusement décédé. Et là, Blue Corner, c'est une de ses œuvres assez anciennes, puisqu'on doit être dans les années 80 sur ce titre-là qui a été édité. Bah, du coup, une réédition là qu'on a reçue. Et moi, j'avais déjà l'ancienne édition chez Pika Graphique. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut en parler tous les deux.
Ok. On abordait très brièvement qu'il y avait pas mal de mangas sur la box. Tu me parlais de Black Box, tu nous as parlé d'Hippo, Ashitano Joe. Moi, j'avais noté Saotome, Baki. Et qui sont aussi des mangas sur la box, plus récents peut-être un peu aussi.
Ouais, bah qui box et Free Fight un peu.
Free Fight.
Ouais, mais en effet, oui.
J'ai même appris, et ça sera l'occasion de faire une chronique, un manga qui s'appelle Power Antoinette, où c'est Marie-Antoinette qui fait de la box. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Bref, les mangas de sport et de shonen où l'héros veut devenir plus fort que tout le monde, il y en a quand même un certain paquet. Mais là, on est vraiment dans autre chose. On est dans une histoire très réaliste. Jiro Taniguchi, Caribou Marley, je le rappelle, sont plutôt des histoires humaines, tranches de vie. Donc on va suivre un individu dont on ne connaîtra pas le nom. Il sera surnommé tout au long du manga Reggae, à cause de son peignoir de boxeur sur lequel on trouve le portrait de Bob Marley avec marqué Reggae en dessous. Ce boxeur, par contre, il a un petit problème. Il n'est pas hyper bon, mais il n'est pas hyper mauvais non plus. Soit il gagne dans les deux premiers rounds, soit il se fait rétamer. Autre point, sa boxe n'est pas très académique. Mais la plupart des gens trouvent que cela lui donne un certain style. Et on devine aussi assez vite qu'il a un autre problème. C'est que notre bon Reggae, il a tendance à bien lever le coude. Et je ne parle pas de son style peu académique. Plutôt de sa façon qu'il a de s'imbiber d'alcool fortement avant ses combats. Je laisse imaginer un petit peu ce que ça peut donner lors d'une compétition. Et un jour, alors que Reggae est en train de faire un combat, justement, il est remarqué par Angelo, un ancien champion mi-lourd reconverti en promoteur de combat. Ce dernier voit alors dans Reggae un fort potentiel. Il va alors lui proposer de devenir son manager. Alors je l'ai déjà dit, hein, je m'arrête là sur la présentation, sauf si tu voulais rajouter des éléments. Mais...
Non, parce qu'en plus c'est vrai que c'est qu'un seul tome, donc si on va c'est un ça. Peu trop long, on risque de raconter un peu toute l'histoire. Mais donc très bien.
Moi je l'ai déjà dit plein de fois, hein, je suis pas un grand fan de manga de sport, ça peut m'arriver, hein, mais c'est pas vers ça que je me dirige naturellement. La boxe, je connais un petit peu, pas tant que ça. Eh ben, j'ai dévoré Blue Corner. Pourtant, c'est un beau pavé, ça fait 288 pages, dans un format qui est un peu plus grand que d'habitude. C'est dans la collection Pika Graphique, c'est un format que je trouve vraiment bien,
parce qu'il
laisse plein de place justement aux belles images, sans être trop grand, ça marche bien. Mais je m'égare. Le premier point qui m'a fait aimer ce manga, c'est que c'est sublime. Le manga, le dessin, il est très réaliste, les décors, véhicules, visages, musculature, tout est très propre, t'es beau.
Tout à fait, c'est très beau. Je rebondis juste sur le dessin, pour ceux qui sont habitués à du Taniguchi sur ses tranches de vie un peu plus tard, là on a quand même beaucoup plus d'aplats de noir que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Moi c'est la première chose quand j'ai commencé à lire qui m'a sauté aux yeux, c'est les premières pages en plus, surtout sur Blue Corner où les toutes premières on est dans la salle avec beaucoup de noir, avec beaucoup d'aplats, qui du coup m'ont un peu sauté aux yeux. Et en plus on en discutait un tout petit peu avant, en ouvrant la nouvelle édition, j'ai fait il y a une différence. J'ai vu une différence et je me suis dit, c'est pas exactement comme la mienne. Et j'ai regardé, et en effet, les aplats noirs sont un petit peu plus clairs sur la nouvelle édition. Et ce qui, au final, fait ressortir un peu plus les détails que sur l'ancienne.
On s'est posé deux, trois fois sur quelques pages et effectivement, on distingue plus de détails sur les muscles. Je pense que la version la plus récente est peut-être plus proche du travail d'origine.
Oui, je pense aussi. Peut-être qu'ils avaient peut-être pas exactement le même matériau au départ pour refaire les scans et tout ça. Ouais. Mais en tout cas, ouais, très, très sympa au niveau dessin. Mais ça change un petit peu du Taniguchi qu'on a après, plus tard. Son trait change un petit peu, je le trouve.
C'est clair. Bah du coup c'est beau parce que c'est bien fait, hein. Je vois pas quoi dire de plus. Et puis quand arrivent les moments de combat, les moments de boxe, on a du dynamisme, on a des mouvements, c'est toujours très lisible, c'est percutant, hein, y a pas à dire. C'est, moi je trouve ça fabuleux à regarder en fait.
Ouais non c'est très cool, et puis en plus c'est vrai qu'on a la boxe qui est centrale, mais il y a quand même autour toute une histoire un peu mafieuse.
J'y viens après.
Ah, excuse-moi, je t'ai mis... Eh ben du coup, je te laisse rebondir sur ça.
J'en refais ma phrase, regarde. Vas-y. Je te la lis telle qu'elle. Et je préfère rassurer quand même les gens qui ne sont pas fans de boxe. Ça parle de boxe, ok, mais ça parle de bien plus que ça. Parce que c'est pas qu'un manga sur la boxe, c'est un manga sur un boxeur, sur le personnage. Et c'est sur lui et sa carrière que c'est le plus intéressant. Et effectivement, c'est aussi l'histoire de toutes les magouilles qui vont avoir lieu dans son dos pour faire de ce loser magnifique un combattant de premier plan. Et comme tu lis, il y a de la mafia, il y a les tractations à base de gros sous qui sont faits pour que tel combattant soit dans l'incapacité de combattre, par exemple.
C'est ça, pour donner la place à un autre.
Voilà, donc ça parle de boxe. Alors j'ose espérer que les matchs de boxe qu'on voit à nous se déroulent pas tous avec le même type de magouille, parce que sinon le noblard...
Peut-être à une époque, c'est possible qu'à une époque il y ait un peu de ça, mais je pense que maintenant c'est plus le cas.
Il y a des histoires de gros sous et c'est très très bon. Et en fait, ça fait de Reggae un homme qui va être destiné à affronter des gens d'une autre catégorie pour un combat de légende. Et ça, faudra le lire pour le découvrir. Un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est un manga qui a des relents de polar noir. Il y a des passages avec du jazz, on a le héros qui boit, même si c'est pas un détective. On a le même archétype du héros maussade et mutique, puisque Reggae ne parlera quasiment jamais de l'ouvrage.
C'est même pas que, oui, il parle pas, hein.
Je crois qu'il a une réplique à un moment, basta.
Ouais, une réplique ou deux, mais c'est tout. Sinon, le reste du temps, il dit rien, il fait la tronche quasiment tout le temps.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages dans les bars avec les jazzmen, avec lui accoudé et tout ça. Et ça met une petite ambiance très très cool, qui assombrit, et qui montre que finalement la boxe, elle est là, mais il y a tout autour. C'est vraiment une atmosphère, quoi.
C'est plus une époque et des personnages, ouais. Puis ce qui est cool, c'est qu'en définitif, en fait, hormis Reggae le boxeur, on connaîtra assez peu de choses de lui, si c'était qu'il est prêt à tout pour affronter des combattants plus forts ou au moins aussi forts que lui. On a des bribes de flashbacks, de plein de trucs, mais qu'on n'arrive pas vraiment à connecter à quoi que ce soit.
Ouais, moi ça a été mon petit bémol, c'est que finalement ils nous mettent des pistes sur pas mal de petites choses, mais en fait, on sait pas.
Ah, est-ce que ça aurait pas été un truc voulu plus long et on a tranché?
Ouais, je sais pas, je ne saurais pas dire. Mais c'est vrai que ce côté-là a pas été développé du tout, alors qu'il nous amenait vers, pour nous faire réfléchir à des trucs, mais on n'a jamais de suite sur certains points.
C'est dommage. Bon, j'ai déjà dit, hein, graphiquement, c'est très beau, c'est très fin, c'est propre. J'ai la couve sous les yeux. Je trouve que cette couve-là marche mieux
que... Ouais, la couve de la réédition est plus sympa que celle d'avant. Je suis d'accord.
Et ça me...
Et autre plein détail que je trouve qui était abusé sur l'ancienne édition, il n'y avait pas le nom du scénariste.
De Caribou Marley.
Et ouais.
Ah, yes.
Et du coup, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure, alors que toi, elle y est. Et ça, je trouve qu'en effet, c'est un petit peu limite de pas
c'est
mettre
un peu
le
dommage.
Scénariste. Mais bon, ils ont rectifié sur la nouvelle édition, ce qui est très bien.
Effectivement. Alors, que résumer? On a une plongée dans un milieu urbain de boxe, avec des petits passages très borderline avec de la mafia. Ça sent la sueur, ça sent les cigarettes quand on est dans des clubs. Moi, je trouve que c'est une petite pépite. Faut pas hésiter, c'est un one shot de 288 pages, donc ça marche bien.
Ouais, puis en plus, il y a pas énormément de texte entre soi, il y a pas énormément de bulles, il y a pas tout ça, c'est vraiment on s'arrête sur les planches et on tourne les pages et on le lit, ça se lit tout seul, quoi. Moi, je l'ai relu hier tranquillement et ça m'a pas pris non plus énormément de temps.
Ça roule vraiment bien. Donc si vous êtes fan de boxe, ou vous connaissez des fans de boxe, n'hésitez pas à vous l'offrir ou à leur offrir. Si vous les aimez les polars, je pense que vous allez retrouver tout ce que vous aimez. Pour vous faire plaisir aussi là-dedans, donc voilà, quoi dire de plus, c'est très bien comme truc.
Ouais, c'est très bien, ça vaut le coup, il faut tester.
Je vous redonne les refs. Blue Corner de Caribou Marley et Jiro Taniguchi, aux éditions Pika Graphique. Merci à eux. Hop. Je vais faire une petite pause musicale qui fera peut-être une seule, parce que du coup on a bouffé quand même 10 minutes tout à l'heure. On va partir avec Bandmade et Zen. Alors c'est un groupe japonais, je sais pas si tu connais Bandmade.
Non.
Et ça c'est l'opening d'une nouvelle série qui s'appelle Zenshu, que je vais sans doute regarder. Mais c'est une autre histoire. Je vous laisse avec Bandmade et Zen sur le 101.5 de Radio G. Nobody knows, attaché. Et ouais, vous êtes de retour sur le 100.5 de Radio G, c'est toujours Seb au micro. Je suis toujours en compagnie de Fabien.
Et oui, je suis là.
Et on va rattraper en fait les 10 minutes où on a causé tout seul entre nous deux, sans avoir pensé à vous inviter à cette radio.
C'est ça, on n'a pas été très cool sur le coup là.
Non, on a été un peu nul, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, je m'en excuse. Voilà, je fais trop de choses et puis des fois dans le feu de l'action... Voilà, big dédicace à mon épouse qui m'a envoyé un petit message en me disant « c'est normal qu'on t'entend pas ». Eh ben non, c'était pas normal. Voilà, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des messages dans le chat, parce que vous auriez pu me le dire, chers auditeurs, on n'était pas là. Bref, de quoi on parlait en tout début de... On va voir si t'as suivi, Fabien.
Alors, si je ne dis pas de bêtises, j'étais là. On a parlé de « Grande Familia
». Alors, Grande Familia, c'est un manga qu'on a lu tous les deux. On voulait essayer en fait de faire des chroniques qu'on avait tous les deux lues. Déjà, on l'a fait avec Blue Corner.
Voilà, exactement.
Mais on l'a fait aussi avec Grande Familia, qui est une critique libre, puisque c'est un ouvrage qu'on ne nous a pas été envoyé par l'éditeur. Ok. De quoi ça parle? Donc, l'éditeur, c'est Komiku. L'auteur, c'est Hamada Kenji. C'est une série en 5 tomes. C'est terminé au Japon. Et il y en a actuellement 2 en France. Alors... L'histoire de Grande Familia se déroule dans un monde fictif, mais moderne, dans une ville semblable à New York. Un monde où les semi-humains et les humains ont du mal à vivre ensemble, les uns persécutant les autres pour leurs différences et la menace qu'ils représentent. Je vous laisse deviner qui persécute qui. Un monde où des semi-humains au pouvoir surnaturel vivent en cachant leur vraie nature. Ceux-ci se regroupent alors en familles, des sortes de gangs où le lien n'est pas celui du sang mais plutôt celui de la mafia. Ces gangs sont globalement des menaces pour la société. Tous les semi-humains n'appartiennent cependant pas à ces familles. Parmi ces gangs, un semble avoir le contrôle sur tous les autres, un gang qu'on considère plutôt comme une légende, la Grande Familia. Ça, c'est pour le contexte. L'histoire du manga, c'est celle d'un jeune garçon. Il est patron d'un restaurant et a pour seuls employés sa serveuse et son cuisinier. On nous le présente comme étant un peu idiot, je dirais même benêt, avec ce côté candide et maladroit. D'ailleurs, ses employés ne manquent pas de se moquer allègrement de lui. En fond, on découvre aussi l'histoire de cette ville, ce New York fantastique qui aurait été ravagé par cette Grande Familia. Assez vite, on va découvrir également que notre héros n'est pas aussi innocent qu'il n'y paraît. En effet, lui et ses deux acolytes sont des semi-humains qui se dissimulent parmi les humains classiques. Parce que lui et ses deux acolytes, c'est parce que Blue Corner alcoolique qui revient, ses deux acolytes sont membres de la Grande Familia. Au fur et à mesure de l'action, on découvre qui est réellement notre héros et quel est son code d'honneur et sa façon d'agir. Très vite, un doute semble poindre pour le lecteur. Et si la Grande Familia n'était pas à l'origine du légendaire massacre?
En effet, on se pose très vite la question quand même, hein, parce que on sent que on a du mal en fait quand on voit le personnage qui a l'air quand même relativement gentil. Même si on a sa face dès qu'il se transforme assez sombre, hein. Mais voilà, il est là pour plus pour protéger les humains. Et que autre chose. Donc, on a du mal à se dire que c'est cette famille-là qui a pu faire, a priori, ce ravage, dont on ne connaît encore rien du tout, même avec ce premier tome. C'est juste, on entend parler, quoi.
On a juste une image à un moment qui nous montre une scène d'apocalypse, mais.
C'est ça. Avec. Ça fait un peu, même d'ailleurs, un peu la super-héros avec
tous les personnages
qui sont alignés les uns derrière les autres avec l'explosion en fond et tout, qui est d'ailleurs très belle, cette planche.
La planche est très belle.
Ouais. Et du coup, c'est la seule chose qu'on voit.
Du coup, tu le mentionnais, le scénario propose des ambiances qui vont alterner entre tranches de vie et polars sombres. On balance entre des moments de chill et cool de vie avec des passages de conflits plutôt violents. Des conflits qui amèneront le héros et nous, lecteurs, à découvrir toute une palette de semi-humains en souffrance. Quasiment toujours à cause des humains. On oscille entre des moments où le héros passe pour un idiot aux yeux de tous et ceux où il révèle sa vraie nature, où il devient un redoutable adversaire pour châtier ceux qui ont un comportement qui ne convient pas à son code d'honneur. Souvent pour corriger une situation qui met en conflit semi-humain et humain. Graphiquement, c'est cool. Je te laisse intervenir quand tu veux, n'hésite pas.
Ouais, bah graphiquement, donc t'as trouvé ça cool, en effet, moi aussi. Et d'ailleurs, il y a deux facettes du dessin. Il y a le côté, en effet, histoire un peu à la tranche de vie, même gag, c'est-à-dire vraiment avec les traits beaucoup plus simplistes, où vraiment, bah, quand il se plante, quand il tombe, il arrête pas en fait, il est maladroit au possible. Et par contre, dès qu'on va passer dans le côté gang et mafia new-yorkaise, là le dessin il va être très léché, détaillé, plus sombre, avec ce côté violent, parce que les scènes d'action sont relativement violentes quand même.
Pas trash.
Mais pas trash, non. Violente, surtout. Mais du coup, ça passe très bien. Et on sent une maîtrise dans le dessin. Mais il y a vraiment ces deux facettes-là. Au tout départ, on peut se dire, bah tiens, bon, le dessin est simpliste, ça a l'air d'être gentil quand ils sont dans le machin. Par contre, voilà, ça marche pour le gag. Et après, dès qu'il passe sur l'autre facette, on sent que là, voilà, ça fonctionne vraiment.
Et ça joue aussi avec les compositions lumineuses qui oscillent entre ombre et clarté pour accompagner les situations selon où on nous situe plutôt dans la violence ou dans le
côté étrange de vie. C'est vrai qu'on bascule très souvent la nuit. Dès que ça devient sur les semi-humains, on est vraiment côté nuit et l'autre partie côté journée, quoi.
Je trouve que l'ambiance de fantasy urbaine, elle est bien retranscrite avec pas mal de décors et surtout un soin apporté, tu le disais, au costume des personnages qui sont très classe, quoi. L'auteur a un trait qui est précis, pointu, ce qui rend la lecture franchement agréable et fluide. Et j'apprécie, moi particulièrement, cette aura de mystère qui plane sur une organisation que tout le monde connaît. Cette grande familia, tout le monde l'a à la bouche. Elle fait à la fois office de MacGuffin, puisqu'on n'en connaît pas grand-chose au final, et de croque-mitaine, à cause de toutes les rumeurs qu'on peut faire courir sur son compte. Moi, j'ai trouvé cette lecture vraiment sympathique, à cause de cette belle galerie de personnages, et surtout de son ambiance vraiment très cool.
Ouais, non, c'est très sympa, ce côté mafia ressort bien, et ça va bien finalement avec ces semi-humains, ce côté fantastique. Et en plus, on a vraiment tout un panel au côté fantastique. Ça va aller dans un bestiaire vraiment très large. On va se retrouver avec les classiques vampires, loups-garous, mais ça va aller jusqu'à la sirène. Et du coup, ça amène on sait pas, les personnages qu'on rencontre, est-ce que ce sont des humains ou pas au début? Donc à se demander, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ils se transforment. Donc ils ont vraiment leur nature humaine qu'on voit au quotidien, et après de savoir à quoi ils vont ressembler vraiment, ou est-ce qu'ils sont que humains. Et du coup, c'est sympa ce côté-là aussi.
Ça fait un petit twist piquant.
Ouais, tout à fait.
C'est cool. Je vais redonner les références. Du coup, c'est Grande Familia, c'est d'Amada Kenji, c'est publié aux éditions Komiku, et on a deux tomes actuellement en France. Est-ce que tu veux enchaîner, toi?
Écoute, avec plaisir.
Tu veux nous parler de quoi?
Je vais vous parler d'un manga qui n'est pas un manga.
Ça va être coloré?
Ouais, alors, un petit peu, mais pas beaucoup.
Un petit peu de générique, hein.
Allez, c'est parti.
Nani? Omae wa mou shindeiru.
Alors, de quoi tu nous parles, Fabien?
Je vais vous parler de Shin Zero. Donc, Shin Zero, c'est quoi? Alors, je disais, c'est un manga et c'en est pas un, tout simplement parce qu'en fait, ce sont des auteurs français.
Ah.
Et en plus, ce sont des auteurs français dans une maison d'édition qui n'est pas une maison d'édition de manga.
Ok.
Donc, en fait, c'est...
On casse les barrières.
Oui, là, exactement. Mais pour moi, c'est que ça qui fait que c'est pas un manga, parce que c'en est un. Clairement, tous les codes, ce sont les mêmes. Donc, en fait, c'est Shin Zero, donc c'est édité chez Rue de Sèvres dans le label 619.
Okay.
Qui est un label qui est toujours à la frontière un peu de quand ils font des choses, des fois ça part vers le comics, des fois vers la BD. Voilà,
il y a un petit peu tout. Ils aiment bien expérimenter.
Et en plus là, on a quand même à la baguette deux noms assez connus dans le au niveau français, puisque au dessin on a Guillaume Saint-Gelin et au scénario on a Mathieu Bablé. Donc c'est quand même
deux cadors.
Deux cadors en France du 9e art et qui aiment bien expérimenter différentes chose, vraiment. Et là, clairement, pour le coup, on est sur quelque chose de complètement différent de ce que j'ai pu lire, par exemple, avec Carbone et Silicium. Ça n'a vraiment strictement rien à voir.
De Mathieu Bablé, du coup.
De Mathieu Bablé, exactement. Et donc, c'est paru en 2024. On est avec un tome en cours et ça sera fini en trois tomes. Donc, série courte. Mais on va voir un petit peu plus loin qui vaut vraiment la peine d'être testé.
Pareil, les caisses de Seb, on prend soin de vos étagères. Des petites séries courtes pour l'instant.
Des petites séries pour l'instant, c'est bien, on est sympa, c'est plutôt cool. Alors, et du coup, de quoi ça parle? Donc en fait, il y a 20 ans, le dernier kaiju, monstre géant venu des mers, a été vaincu par les Sentai, un groupe de justiciers colorés. Aujourd'hui, les Sentai ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, relégués à des petits boulots mal payés. Warren, Nikki, Héloïse, Satoshi et Sophia essayent de trouver leur place dans ce monde désabusé où les héros ont disparu. Alors... Du coup, moi, je l'ai découvert un peu par hasard. J'en avais un petit peu entendu parler quand même sur une petite radio dans mon coin. Et puis, je suis arrivé à Angoulême. Et là, j'ai vu le stand du label 619. Et là, j'ai vu la couve. Et j'ai fait, oh, c'est quoi ça?
Elle est
trop
belle.
J'ai pris, ah ouais, elle est trop classe. Elle est vraiment trop classe, je l'ai pris entre les mains. En fait, elle a un très bel effet brillant dessus. Quand on bouge et tout, c'est classe.
Et chromatique un peu.
Chromatique, ouais. Chromatique brillant, argenté. C'est très sympa au niveau du titre. Et on voit les cinq personnages principaux, en fait, dessus, avec un trait tout simplement magistral. Hein. Moi, j'adore le dessin. Et avec une touche colorée seulement sur les costumes de Sentai. Et ça, c'est la petite particularité de ce manga, parce que je veux l'appeler manga, hein, parce que vraiment, à part le fait que ça se lise aussi en sens occidental, on a tous les codes, exactement. Et ben, il va y avoir une petite pointe de couleur, et seulement sur ça.
Ok.
Ce sont que les costumes qui sont colorés, tout le reste est en noir et blanc. Et ben, franchement,
cool.
C'est hyper bien et très intelligemment fait. C'est-à-dire que vraiment, ça nous plonge, ça nous fait ressortir ces héros qui sont normalement censés être des super-héros, parce que les Sentai, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un Sentai, c'est en gros Power Rangers, pour faire simple.
Bioman,
voilà, c'est des héros du quotidien qui se costument avec des costumes colorés qui vont aller affronter des gros méchants. Tout simplement.
Très bien résumé, je pense qu'on peut pas faire mieux.
Et donc, là, ça suit vraiment tous les codes. Le dessin, je le redis, hein, c'est une merveille. Hein. C'est détaillé, il dessine vraiment très 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 bien, et cette touche de couleur, elle fait vraiment ressortir, ça nous plonge dans l'atmosphère de la série. Et pour le coup, au niveau scénario, on est sur quelque chose qui, au final, est notre quotidien. On a l'impression d'être à notre époque, puisque comme on a dit, les kaijus, ils sont plus là. Et il va y avoir ces Sentai qui sont là, mais qui, au final, sont presque un peu mis à l'écart, ils sont pas aimés forcément par la population. C'est être Sentai comme boulot, c'est ça vend pas du rêve.
Okay.
C'est vraiment un petit boulot presque. C'est des petits boulots. En fait, ils sont embauchés pour faire des petits boulots. Alors ça peut aller du simple vigile au truc quand même beaucoup plus chiadé où faut aller aider la police, machin et tout, avec où ça peut être un peu plus dangereux et tout ça. Et en plus de ça, derrière ça, ils sont notés sur une application avec des étoiles. Donc ça fait vraiment. Pour moi, ça m'a fait penser à l'ubérisation de la société.
C'est Uber super-héros.
Et voilà, c'est exactement ça. Et du coup, bah, ils essayent, eux, de s'en sortir. Alors, chacun à sa façon, pour différentes raisons. Certains, c'est parce qu'ils ont besoin d'un peu d'argent pour leurs études. D'autres, bah, c'est parce qu'ils croient encore dans ces super-héros. Il y en a un, son rêve presque, même si c'est un peu bête de le dire, c'est qu'il aimerait un jour qu'un kaiju vienne, quoi, pour vraiment pouvoir montrer que les super-héros sont là pour sauver les gens et tout ça. Et donc on va se mêler dans ce quotidien-là ordinaire, et on s'y projette bien parce qu'on a l'impression que c'est notre monde. Et clairement, ça fonctionne très 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 bien. Et j'en dirai pas beaucoup plus parce que il faut le découvrir. En plus, ça sera qu'en 3 tomes. Et pour moi, c'est vraiment une petite pépite. J'ai vraiment été très très agréablement surpris en le lisant.
Je l'ai parcouru tout à l'heure quand tu me l'as passé. C'est vraiment ultra joli. C'est...
Ah ouais. Oh, les dessins sont. Ouais, sont très très cool, et dès qu'il y a de l'action et tout ça, c'est retranscrit avec des... Il y a des moments quand ils sont dans leurs costumes et qu'ils se déplacent, on a les traits de vitesse colorés des costumes à certains passages. Non, c'est vraiment bien fait, ils ont fait un super boulot. Je sais pas encore quand est-ce que les autres tomes vont sortir, mais c'est une série dont j'ai hâte de continuer.
Eh ben parfait.
Je redonne...
En tout cas, t'as donné bien envie, hein.
Ah cool, je vais redonner du coup, donc c'est Shin Zero, donc au label 619 chez Rue de Sèvres, et c'est de Bablé et Saint-Gelin.
Perfect. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on a le temps de refaire une petite pause musicale ou pas? Je sais pas du tout, et ben on va pas la faire, j'espère qu'on va... On va pas la faire, on la fait pas. Attends, je vais te les passer ceux-là.
Ouais,
hop.
Ouais, je prends.
Ah, on fait des trucs qui sont pas très radiophoniques, donc imaginez que on est.
Je viens de récupérer les tomes du manga.
Alors, là, moi, je vais vous parler du voyage fantastique de Nicolas au pays des démons. Donc, si vous avez des enfants et qui sont pas encore couchés, c'est le moment de les faire écouter parce que c'est un manga qui s'adresse principalement à eux. C'est de Miyanaga Azaya. C'est publié aux éditions Nobinobi. Pour l'instant, on a 3 tomes en France et on va avoir 4 tomes au total. Et c'est une série qui sera close en 4 tomes. Je rappelle que la Caisse de Seb prend soin de vos étagères. Je vais vous emmener du coup en voyage avec moi. Un voyage fantastique avec Nicolas au pays des démons. Alors, si je voulais faire de l'humour, je résumerai en vous disant que c'est l'histoire de Nicolas qui voyage au pays des démons. Voilà, bonne soirée à tous. Mais vous allez me dire, c'est sûrement pas drôle déjà et puis un petit peu facile. Et vous auriez raison. Mais alors, de quoi parle cet album? Eh bien, ça nous parle de Nicolas. Oui, attendez, vous battez pas, hein. C'est une jeune humaine. Oui, moi aussi, il a fallu que je me fasse à l'idée que Nicolas, c'était un prénom féminin. Bon, je reprends. Nicolas, sans le S à la fin, c'est une jeune humaine, une petite sorcière, qui va se promener dans le monde des démons, en compagnie de Simon. Simon est un diable marchand, ambulant. Alors je vous rassure, il ne ressemble pas du tout au diable judéo-chrétien. Il est filiforme, il a juste deux petites oreilles pointues et un chapeau. Il n'y a donc rien qui puisse faire penser au diable de la mythologie biblique. Les humains, ils n'ont pas le droit d'être au pays des démons. Alors je vais apporter tout de suite une petite précision sur ce point. Comme pour le diable et Simon, les démons ne sont pas des démons maléfiques. Ici, ils ont leur vie, ils ont leur petite shop, leur petite marchande. Ils sont tous différents, même si on identifie certaines espèces. Et ils vivent une vie normale, sauf qu'ils ont des têtes et des corps un peu bizarres. Ils sont des créatures différentes de nous, les humains. Ils sont nommés de manière générale les démons. Si on prend un peu de recul et puis qu'on a une connaissance un petit peu du folklore japonais, je parlerai même de yokai. Et des yokai qui vivent dans un monde de yokai. Fabien, les yokai?
Oui, tout à fait, c'est ça. Bah, tu l'as bien dit, hein, c'est le folklore japonais, les esprits, de manière plus globale. Oui, c'est ça, les esprits japonais qui peuvent apparaître un petit peu partout.
Parfait. Revenons à notre histoire. Nicolas n'a pas vraiment le droit d'être ici, donc. Donc elle doit cacher sa véritable nature. Bon, elle a tendance à s'afficher en se balançant qu'elle est une humaine juste par plaisir. Et du coup, à chaque fois, il y a des gardes, une sorte de police qui vient et qui essaye de la pourchasser. Puis Simon, bah, lui, il aime bien être peinard, c'est mieux pour les affaires. Donc il aimerait bien justement que Nicolas parle pas trop. Donc on va suivre ces deux personnages à travers un périple au pays des démons. On ne sait pas vraiment où ils vont, on sait juste que Simon, lui, veut faire des affaires. Nicolas, elle n'a qu'une seule obsession, faire un petit peu de magie. Visiblement, elle n'est pas très douée, elle a juste quelques bases. Son seul pouvoir, c'est de faire apparaître des fleurs lumineuses. Bah ouais, hein, c'est pas fou comme magie. Tout le monde va d'ailleurs lui dire que c'est pas vraiment la magie la plus dingo du siècle. Mais elle sait faire que ça, et puis ça a l'air de lui convenir. Et au fur et à mesure du voyage, ils vont faire des rencontres, qui vont donner un côté un peu tranche de vie et road movie à ce manga. Et ça va permettre à Nicolas de rencontrer d'autres pratiquants de magie. Mais des pratiquants de magie qui ont des pouvoirs beaucoup plus puissants que les siens. Un petit peu normal, au pays des démons, la magie, ça fait partie de leur quotidien. Et à chacune de ces rencontres, elle va découvrir, sans vraiment le comprendre, au contact de ces gens, hein, comment pratiquer un petit peu plus la magie. Et elle va également les aider, sans le faire exprès, à renforcer leur pratique à eux de la magie, grâce à cette candeur, cette naïveté qu'elle a de poser des questions que les démons oublient de se poser sur leur pratique. Et elle va aussi développer, sans en prendre conscience, sa propre magie. C'est une histoire qui est terriblement mignonne à lire. C'est une série qui est vraiment très agréable, feel good. C'est très joli, graphiquement c'est vraiment stylé. Là, j'ai pas de doute, c'est fait à la main, hein. Mais j'ose même pas imaginer le temps passé pour chaque page. Ah, pourquoi? Bah parce que tout est fait à base de traits, de ratures, de hachures. Ça me fait penser un petit peu aux gravures des livres de contes. T'as le même avis?
Ah oui, moi c'est quand j'ai ouvert et que tu m'as montré, tout de suite j'ai dit « Ah, c'est joli !» Non, vraiment, c'est classe, c'est fin, tous les traits sont très fins, donc du coup ça amène un petit truc mignon au conte. Ça, je pense que ça doit vraiment être parfait pour ce genre de lecture, et c'est très détaillé. Et en effet, je pense qu'il y a un petit nombre d'heures de travail.
Ouais, je pense aussi.
Parce que vraiment, c'est très
joli. Ici, tout est fait à base de petits traits, de points. On est vraiment immergé dans ce monde. Les démons sont tous crédibles, ils ont tous un design cool. Les personnages aussi ont des designs stylés, ce qui donne beaucoup de matière, de points, de traits, de hachures. Et tout ça, ça donne une tonalité qui est quand même un peu sombre à cette ambiance. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une seule chose qui n'est pas sombre. C'est la robe de Nicolas. Une robe blanche, immaculée. Comme si c'était une manière de souligner une touche d'innocence dans ce monde de souillure. Enfin, même si les démons sont pas vraiment malveillants globalement, hein. Même moi, j'irais me promener là-bas, puis ça me ferait pas trop peur.
Oui, puis c'est vrai que des pages que j'ai pu voir un peu vite fait en parcourant là, il y a toujours des sourires. Ils sont toujours souriantes, tu vois tout le temps.
Tout le monde est content.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ça donne le sourire, rien que de regarder.
Et la robe de Nicolas, plus que de l'innocence, c'est une sorte de pureté, de candeur dans un monde où tout est rationnel. De la même manière, je pense que ce manga s'adresse à nous comme un enfant le ferait. C'est pas un humour niais ni malicieux. C'est un humour frais, sans danger, qui nous interroge sur la façon dont on regarde le monde. Et je trouve ça vraiment cool à lire, c'est très reposant. Je vous conseille vraiment cette histoire. C'est une petite série, comme je le disais tout à l'heure, qui va pas vous pourrir les étagères, seulement 4 tomes. Hein. des tomes un petit peu plus grands qu'un tome de manga classique, mais c'est vraiment trop bien. Oui, je suis à fond dedans. Alors la question qui reste en suspens, c'est est-ce que Nicolas arrivera à rentrer chez elle à un moment ou à un autre ? Ça, je vous laisserai le découvrir en parcourant le voyage fantastique de Nicolas au pays des démons. Est-ce que tu veux ajouter des choses, Fabien ?
Bah écoute, ça donne envie de le faire découvrir aux plus jeunes et moi-même, j'ai envie de le découvrir. Tu vois, c'est pour dire. Je lisais un peu à cinquième derrière et il y avait une petite ref. Ils disent en effet digne de Tim Burton.
Oui, mais oui, ce côté-là.
Clairement, en le lisant, je me suis dit, mais c'est vrai, on a ce côté un peu très coloré, même si ça reste en noir et blanc, mais on ressent en fait que ça pourrait être très coloré et comme les couves le sont d'ailleurs. Et on a ce petit côté-là, je trouve, en effet, de Tim Burton sur le voyage un petit peu initiatique de Nicolas, là, qui fait penser sur les couvertures à un petit chaperon rouge bleu.
Bleu. C'est vrai. Non, c'était vraiment un plaisir à lire et j'ai hâte de me procurer le prochain tome. Je redonne les références. Il s'agit. Tu veux le faire ?
Je les ai dans les mains. Allez, c'est parti. Le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Donc c'est chez Nobi Nobi et c'est de Asaya Miyanaga.
Et c'est parfait. Hop. Hein.
Ah, je savais même pas, tu vois. C'est dans la collection Kawaii.
Kawaii Kids.
Ok.
Est-ce que tu veux parler de Secret Bodyguard ou est-ce que tu veux qu'on se le garde ? Ah bah si, tu fais. Vas-y. Hein.
Je peux. Allez, c'est comme tu veux.
On a le temps. Je sais pas. Ouais.
Comme tu veux.
Et tu la gardes de côté.
Ouais, ça marche.
Si dans 15 jours, j'essaierai de le lire et on en parle ensemble.
Ah bah avec plaisir, carrément.
Deck. Du coup, moi, je vais vous parler d'un coup de cœur. Je suis désolé, je te grille la priorité.
Non, mais vas-y, y a pas de souci.
C'est fou. Ça s'appelle Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath et c'est publié aux éditions Ankiama. Alors, comment vous expliquer ? Je vais vous faire un petit teasing. Imaginez une petite ville de campagne où tout le monde se connaît. Enfin, tout le monde ne connaît que ce qu'il voit des autres. Dans ce genre de petite ville, il y a souvent beaucoup de rumeurs. Dans cette petite ville, il y a aussi Samantha Strong, une jeune oursonne qui vit sa vie tranquille, peinard, avec ses petites habitudes, que je vous laisserai découvrir. Mais que se passe-t-il lorsque ces gentilles petites habitudes de cette gentille petite ville sont bousculées par un meurtre aussi violent que sordide ? Eh bien, c'est à partir de cet événement que Samantha Strong va décider d'enquêter, tenter de comprendre qui peut avoir commis un crime aussi horrible et macabre dans une ville aussi calme. Mais est-ce que Samantha elle-même ne cacherait pas un sombre secret ? Si je voulais abuser, je dirais que résumer cet album serait aussi simple que dire qu'on pourrait parler d'un mix entre la série Dexter, avec le serial killer californien, et Le vent dans les saules. Oui, cette petite BD toute douce où les animaux vivent leur vie bien à l'abri dans un petit hameau. Mais ce serait un petit peu trop simple, trop facile. Alors je vais pas faire ça. Je vais essayer de creuser un petit peu plus cet album. En fait, on nous présente la vie d'un petit village à la manière d'une BD toute calme. Les décors sont cool, bucoliques, la vie semble douce et l'auteur utilise beaucoup de couleurs pastel. Des couleurs vives, mais passées, comme atténuées par le temps. Presque comme dans un album pour enfants. Presque parce que le trait de crayon contraste avec cette douceur. On a des animaux anthropomorphes qui vivent leur vie, qui ont aussi, eux, des animaux de compagnie. Ça, c'est un truc qui m'a toujours complètement flingué le cerveau, mais passons. Le trait de crayon, il est efficace, il est ciselé, il accroche. Il n'est pas anguleux, parce qu'il y a quand même des formes rondes. Et si c'est rond, c'est parce que c'est des animaux qui ont l'air quand même jovial. Je pense que l'auteur, il a essayé d'avoir un aspect réaliste, malgré l'aspect anthropomorphique, sans pour autant aller chercher du côté de Black Sad. Tu connais Fabien Black Sad ou pas ?
Juste de nom et j'ai déjà vu un peu les couves.
Voilà, donc c'est un truc très réaliste, très polar noir, alors pas du tout ça. Bref, le trait est efficace et travaillé, et pourtant, tout ça semble encore un tout petit peu enfantin. C'est une sensation qui est assez perturbante à lire. Et puis l'histoire, malgré cet aspect enfantin, elle n'est pas du tout pour les enfants. C'est une histoire violente, avec des crimes, des meurtres horribles, une histoire dont le contraste avec l'aspect enfantin d'un livre d'images colorées est très fort et volontaire. L'auteur cherche à nous perturber. Il joue avec plein de petites choses comme ça. Un personnage central féminin qui n'est pas hypersexualisé. Bon, d'accord, c'est un ours. Est-ce qu'on peut l'hypersexualiser ? Bonne question. Je veux pas la réponse. Hein ? Avec Samantha, du coup, l'héroïne, on nous invite à mener l'enquête sur ce serial killer. puisque vous l'aurez deviné, il n'y a pas qu'un seul meurtre dans cet album. On va essayer de comprendre avec elle qui a bien pu commettre un crime aussi ignoble dans une ville aussi sympathique et tranquille. Une ville si calme et sans histoire. Vous l'avez compris, j'ai été capté de bout en bout. Cet album est un pur coup de cœur, de la couverture jusqu'à la dernière page. D'ailleurs, parlons de cette couverture pour saluer au passage le travail des équipes des éditions Ankama. L'album est très beau. Je vous le décris rapidement. L'album présente la cime des arbres dont les contours sont entrouverts, nous laissant distinguer une clairière. Au centre, on distingue un ours aux vêtements ruraux qui se déplace en traînant derrière lui un sac qui laisse une traînée rouge. Dans l'autre main de l'ours, on a une pelle. Le pourtour des feuilles et des arbres est en relief sur l'album, ce qui est vraiment très cool. Ça lui donne un aspect très tactile. Un aspect tactile qui est renforcé par deux choses. Déjà, le dos toilé, vert feuille, du plus bel effet. Et puis l'album est complété avec un petit signé en tissu, vert également. Non, il est rouge, pardon.
Il est rouge.
Pardon.
Il est rouge, le signé. Ouais, mais ça, du coup, ça va marcher bien avec contraste avec la traînée de sang et puis le vert.
Un bel objet, une belle histoire, une superbe découverte. Je sais pas ce que toi t'en penses, vu que tu le parcours depuis tout à l'heure.
Oui, je regarde attentivement le dessin. Les dessins sont vraiment bien faits. C'est, en fait, il y a un côté, au niveau des animaux, très détaillé. On pourrait se dire, en effet, ça pourrait faire enfantin, mais dès les premières pages, on ressent que non, finalement. Il y a presque un côté malaisant qui s'en dégage. Alors que, pourtant, on voit, c'est coloré, on voit du quotidien, mais il y a quelque chose qui ressort et qui donne un côté malaise. J'arrive pas à l'expliquer exactement. Alors après, quand on tombe sur certaines pages.
Oui, le malaise, est
présent. Clairement. mais en tout cas, on ressent ce malaise malgré tout, même dans les moments, calmes, on va dire, de vie commune que je vois là en parcourant. Et ça a l'air vraiment très cool, ce côté, en effet, enquête et tout ça, dans ce monde anthropomorphe, avec cette atmosphère qui a l'air très particulière. C'est assez intriguant.
Ouais, j'ai vraiment, vraiment aimé. Et tout va bien ensemble. Les décors, parce que j'en ai pas parlé, mais on a vraiment de la ville qui prend vie. On a des immeubles, on a plein de choses qui sont représentées. Il n'y a pas que les personnages. Le fond est pas vide. Et on est vraiment immergé dans ce petit village, comme si on était presque nous aussi un habitant qui découvrions un petit peu tout ce qui se trame au fur et à mesure. C'est petite pépite, vraiment, clairement, allez-y, c'est trop trop bien.
Et ça, tu l'as peut-être dit, et c'est moi qui étais absorbé, mais c'est prévu en plusieurs tomes
C'est un one-shot, et ça ne nous a pas été fourni par un éditeur, c'est moi qui ai découvert ça
okay.
Sur un conseil d'un libraire. J'ai vu le libraire qui a dit, ah, ça c'est très bien, j'ai fait, ah ouais. J'ai vu la couve, j'ai fait, ah ouais. Et puis je l'ai lu, j'ai fait, ah ouais. Donc voilà.
Bonne pioche.
Ouais, très 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 bonne. Okay. Voilà, donc je redonne les références. C'est Beneath the Trees Where Nobody Sees. C'est de Patrick Horvath et c'est publié aux éditions Ankama. Voilà, voilà. Et ben c'est pas mal tout ça. On va tomber pile poil dans les temps. Du coup, on garde Secret Bodyguard pour dans 15 jours.
Ça marche.
Comme ça, je pourrais le lire et donner des choses. On parlera de quoi. Moi, j'aurais sans doute une chronique sur des chats.
Okay. Moi, je t'avoue que j'ai pas encore choisi. Je sais pas encore. Donc, on verra. Est-ce que
t'auras le temps de lire tout ça?
Alors, peut-être pas tout, mais peut-être que j'en aurais lu un, déjà. Peut-être. Alors, je tease un peu. C'est un Urasawa qu'on nous a gentiment envoyé. Mais là, au moins, c'est assez large pour pas que vous sachiez ce que c'est.
Parfait. Du coup, attends, on va faire Porky. Hop. That's all, folks. Et oui, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Teasing à fond, je suis trop fort. Non, pourtant, je l'ai bien préparé cette émission, mais c'est le bazar. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? On a parlé de Gran Familia aux éditions Komiku, et c'était de, je vous donne tout de suite l'auteur, je vais y arriver, de tête, je m'en rappelle plus.
Pas choisi le bon, on a plus le bouquin avec nous.
Mais non. Gran Familia aux éditions Komiku de Hamada Kenji. On a parlé également de
Le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons de Asaya Miyanaga de chez Nobinobi.
On a parlé aussi de Blue Corner de Caribou Marley et Jiro Taniguchi aux éditions Picagraphique. On a également parlé de
Shin Zero au label 619 de Bablé et Saint-Gelin.
Et on a aussi parlé de Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath aux éditions Ankiama. J'espère que ça vous a plu. C'était plutôt cool, malgré un ratage au démarrage. Hein.
Oui, mais c'est pas grave. On s'est rattrapé sur la suite.
Ouais, on n'était pas trop mauvais. Et ben, c'est le moment qu'on va pouvoir prendre pour se quitter. On vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Ah ben, vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni! Ore wa naru!
Batman! Oh, la petite stouffe!
Sortez vite! Venez pas suite-moi ici!
Justement! Les touristes de mort!
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
For a moment there, I thought that we would be alright. I was tired, and you were standing in. So bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. It was so bright, so bright, so bright that I forgot. I started to believe in all the stories, 'cause I couldn't stand to fight. I was so tired of hanging on to that last. So bright, so bright, so bright that I forgot about the dark. Yeah, it was so bright, so bright, so bright that I forgot.
radio-g.fr.